Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bienvenue sur les pauses éducatives de Sylvie, un nouveau format de podcast en plus de nos discussions quotidiennes. Dans cette nouvelle série de podcasts courts, Sylvie nous décrit des exercices, des activités ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien, pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors bonne écoute!
Vous savez qu'avec nos pauses éducatives, j'aime beaucoup illustrer les événements importants qui jalonnent notre année, que ce soit le changement de saison, que ce soit les différentes fêtes célébrées. Et donc, cette semaine, nous allons célébrer une journée vraiment très importante. Le 30 avril prochain, nous célébrerons la 18e journée de la non-violence éducative. Et il me semble important de réfléchir encore et encore à ce sujet, surtout en cette période de confinement, car on sait combien le confinement cristallise les tensions et les frictions, et combien d'enfants vont subir pendant cette période des violences, que ce soit physiques ou verbales, pendant toutes ces semaines. On sait que le confinement va cristalliser les tensions, les frictions. On peut comprendre que parfois il soit difficile de vivre dans des petits espaces avec plusieurs enfants et plusieurs adultes. Et c'est pour cette raison que je continue à affirmer haut et fort que la fermeture des écoles est une catastrophe. C'est très grave et ça a des conséquences beaucoup plus importantes que le virus n'en fait sur la population. En effet, combien d'enfants vont vivre des peurs, des coups, des stress qui vont marquer leur vie pour toujours? Qu'est-ce qu'ils vont devenir comme adultes? Notre podcast, c'est sur les adultes de demain, justement, pour faire un monde meilleur. Et comment ces enfants vont grandir? Quels adultes ils vont devenir? Et quand je lis que récemment encore qu'on met à la disposition des enfants un numéro de téléphone, un formulaire à remplir sur l'ordinateur, je trouve ça honteux. Comment un enfant de 4 ans qui est victime de violence va prendre le téléphone pour appeler ce numéro, va allumer l'ordinateur, écrire, remplir un formulaire? On parle aussi des voisins, mais on sait que tout ça se passe souvent dans le silence. Au moins, lorsque ces enfants vont à l'école, ils rencontrent un sas de répit, de calme. Ils peuvent justement là dire ce qu'ils vivent et on peut déclencher un certain nombre de choses, mais les enfermer à la maison avec leur bourreau, il n'y a rien de pire. Donc, je ne vais pas m'apesantir sur le sujet de la fermeture des écoles et du confinement parce que c'est pas ce dont j'ai envie de parler. Mais je pense qu'il est important cette semaine, encore une fois, d'évoquer le sujet de la violence éducative, tant à l'école qu'à la maison. Alors, Bien sûr, moi j'ai choisi aussi fortement cette pédagogie Montessori parce que Maria Montessori parle de ce sujet depuis des dizaines et des dizaines d'années, et elle en a parlé à un moment où elle était vraiment très précurseur au début du XXe siècle, en prônant le grand respect pour l'enfant, à une époque où on maltraitait les enfants en prétextant que bien souvent que c'était pour leur bien. On faisait ça pour leur bien. Ils avaient besoin d'être punis, ils avaient besoin d'être battus, ils avaient besoin qu'on décide pour eux, ils ne pouvaient pas décider par eux-mêmes, ils avaient besoin qu'on leur impose les choses, qu'on les élève, qu'on les dresse. Et moi j'aime beaucoup cette phrase de Maria Montessori qui dit « L'enfant est pour l'humanité à la fois un espoir et une promesse ». En prenant soin de cet embryon comme de notre trésor le plus précieux, nous travaillerons à faire grandir l'humanité. Prenons soin de cet embryon comme de notre trésor le plus précieux. Et c'est là encore que je pense que la pédagogie Montessori est beaucoup plus importante qu'une pédagogie. C'est avant tout une philosophie de vie que l'on doit tous adopter, non seulement à l'école en tant qu'éducateur, en tant que directeur, en tant que présence à l'école, mais aussi en tant que à la maison, en tant que parent, en tant qu'oncle, en tante, frère, sœur, en tant que grand-parent, en tant que beau-parent, on doit tous adopter cette philosophie avec ses valeurs essentielles qui sont avant tout le respect total de l'enfant, le respect de ce qu'il est, de qui il est, de son rythme de développement, de ce qu'il fait, de ses besoins, de ses goûts du moment, de ses aspirations, de ce qu'il pense, de ce qu'il dit, de ce qu'il désire. Et tout faire pour être vraiment dans le respect de ce respect. Maria Montessori parlait aussi de l'attitude bienveillante, elle ne disait pas bienveillante, parce que c'est un terme d'aujourd'hui, mais de l'adulte envers lui. La posture de l'adulte, elle le décrit dans ses livres d'une façon extraordinaire. Elle dit avant tout, ce qui me semble très important encore aujourd'hui, que l'adulte qui s'occupe d'enfants doit faire un travail personnel, un travail sur lui, afin d'avoir une relation où on va éliminer les émotions ou les attitudes négatives. Donc l'émotion, la première qui est la colère. La colère qui nous fait dire des mots ou adopter des attitudes qui sont totalement impossibles envers l'enfant. Donc faire ce travail pour supprimer cette mauvaise émotion ou savoir gérer cette émotion de colère quand on est face à l'enfant. On doit aussi se débarrasser de l'orgueil. L'orgueil est ce sentiment aussi que l'on a de supériorité par rapport à l'enfant. Donc, éliminer le fait que l'on se dit supérieur à l'enfant. Que nous, on sait mieux ce qui est bon pour l'enfant que lui-même. Et que donc, on va imposer à l'enfant ce que l'on pense être le mieux pour lui. Et on va nier ses propres besoins, ses propres sentiments, ses propres émotions. Donc vraiment, essayer en tant que parent, en tant que personne qui s'occupe d'enfants, de supprimer ou d'arriver à gérer ses émotions de colère et d'orgueil. Aussi, savoir que on doit avoir envers l'adulte une attitude extrêmement respectueuse, avec une façon très calme et très posée de nous déplacer, de leur parler. Dans une salle de classe, on doit chuchoter, on ne doit pas élever la voix. On doit marcher doucement. On doit vraiment imprimer une notion de calme afin que l'enfant ne vive absolument pas dans le stress, mais au contraire, vive dans un calme total, pouvant juste se concentrer sur sa propre construction. Lorsqu'on fait une présentation à un enfant, mais ça peut être aussi à la maison, ça peut être à l'école bien sûr, mais à la maison ou n'importe où, on doit le faire lentement, justement dans le respect de l'enfant, pour qu'il ait le temps d'observer ce que l'on fait et de l'absorber. On doit aussi lui donner la possibilité de faire, de refaire les choses tranquillement. On a aussi ce rôle de modèle qui est extrêmement important. On doit l'avoir tout le temps à l'esprit. L'enfant se construit grâce à ses neurones miroirs par rapport à ce qu'il nous voit faire, à ce qu'il nous voit dire. Et ça, on doit vraiment l'avoir ancré en nous. On va lui interdire de se mettre en colère alors que nous, on fait des colères. On va lui interdire certains mots alors que nous, on les exprime par rapport à d'autres devant lui. Donc, on doit vraiment travailler sur notre façon d'être. Alors évidemment, ce n'est pas facile, mais on a choisi ce métier, on a choisi aussi de devenir parent, et donc ça implique un certain travail sur nous, une certaine obligation d'attitude. Maria Montessori avait observé que l'enfant était doté justement de cet esprit absorbant, qui fait qu'il absorbe tout. Donc il absorbe le savoir, il absorbe le langage, il absorbe le fait de savoir marcher, il absorbe le vocabulaire que l'on emploie, il absorbe tout. Et il absorbe y compris ce que nous lui montrons en tant qu'adulte, ce que l'on dégage. Parfois, c'est dans les non-dits aussi, hein, quand un soupir, les yeux que l'on lève en l'air quand on le voit, ça, tout ça, il va l'absorber. Donc, je pense vraiment qu'on doit tous avoir en tête, que ce soit en tant que parent, en tant qu'enseignant, je vous dis en tant que grand-parent, on doit vraiment avoir à l'esprit tout ce qui fait partie de la non-violence envers nos enfants. Il faut vraiment savoir qu'on est un modèle. Donc, qu'on n'exige surtout pas d'eux ce que nous ne leur montrons pas dans notre attitude et nos paroles. Donc, en tant que Montessorien, on prône cette éducation vraiment pour un monde de paix. Et évidemment, paix signifie non-violence à tous les niveaux. Maintenant aussi, grâce aux recherches des neurosciences, on sait combien on peut avoir une influence considérable sur le développement du cerveau des enfants, qui n'est absolument pas terminé. Les connexions neuronales se développent jusqu'à un âge très avancé, environ 25 ans. Le cerveau n'est pas fini jusqu'à 25 ans. Et d'autant plus que l'enfant est petit. Donc son cerveau est extrêmement malléable. Donc tout ce qu'on va produire comme effet négatif, ça va, comme les violences verbales ou les violences physiques, ça aura un effet dévastateur sur le développement de la personne. Leur vie va être totalement imprégnée par notre attitude et par nos paroles. Alors quand on s'occupe d'enfants, que ce soit en crèche, que ce soit en tant qu'assistante maternelle à l'école et en tant que parent, il faut vraiment avoir ça en tête. C'est peut-être culpabilisant, mais pour moi c'est extrêmement important. Alors bien sûr, ça va faire culpabiliser beaucoup les adultes et surtout les parents. Et pour moi par contre, je pense qu'on n'a aucune excuse pour aucune maltraitance envers les enfants. On nous confie, nous des enfants, en tant qu'éducateurs, professeurs, et là on n'a aucune excuse, on a choisi notre métier. On nous confie des vies et on leur doit d'avoir une attitude pratiquement irréprochable. Je dis pratiquement parce qu'on sait que l'adulte ne peut pas être parfait. Mais en tout cas, il a on peut accepter des dépassements et ils doivent vraiment être minimes. Mais il est inacceptable de blesser un enfant par des paroles dévalorisantes. Combien d'enfants j'ai rencontrés qui étaient en phobie scolaire, en dépression, ou alors qui avaient perdu totalement confiance en eux parce qu'un enseignant leur disait « Tu es nul, tu n'y arriveras jamais, tu comprends rien, tu sauras jamais faire, qu'est-ce que tu vas devenir, tu n'auras pas de métier, etc. etc. » notamment sur les adolescents. Et ça devrait être interdit dans notre vocabulaire parce que ça marque à jamais. Si on se sent énervé, on peut être énervé, mais on explique. On cherche des solutions pour calmer cet énervement. Aujourd'hui, on a plein de solutions à notre service. On peut faire des séances de sophrologie, on peut faire de la relaxation, on peut aller vers la méditation, on peut faire du yoga, on peut aller marcher, on peut faire des tas de choses pour trouver notre solution pour nous apaiser. On peut sortir un moment de la classe même. On explique, je suis trop énervée, je sors un moment, je respire, je vais marcher. En tant que parent, c'est la même chose, on doit trouver nos solutions. Il existe des solutions. On peut, pareil, faire de la sophrologie, on peut faire du yoga, on peut méditer, on peut aller marcher, on peut écouter de la musique calme, on peut faire des tas de choses. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est demander de l'aide à un membre de la famille, à un ami, à un voisin, pour nous aider à nous occuper de l'enfant un certain temps. Et surtout pas mettre dans cette relation « Ouais, cet enfant est trop difficile, il est insupportable, mais c'est affreux. » Et en plus, plus l'enfant va entendre ça, plus il va se mettre dans cette image. Il y a aussi des choses très simples à faire. Par exemple, respirer profondément 3 fois. Déjà, on va envoyer une information à notre cerveau limbique qui va faire qu'on va calmer l'émotion. Et du coup, le cerveau frontal, qui est le cerveau du raisonnement, de la prise de décision, de tout cela, va pouvoir se mettre en avant et nous aider à avoir une meilleure réaction. Envoyez à votre corps, à ce cerveau limbique, « Waouh, ça y est, je gère mon émotion. » On respire profondément 3 fois. Et vous verrez déjà, ça va apaiser les choses. Il faut aussi, je pense, il est important pour les adultes d'apprendre le plus possible sur l'enfant. Moi, je vous conseille de lire un livre qui m'a confortée dans cette idée de besoin de bienveillance. C'est le livre de Catherine Guéguen qui s'appelle « Pour une enfance heureuse ». Je pense que quand on lit ce livre, Après, on va vraiment réfléchir avant de s'énerver, avant de dire des choses compliquées à l'enfant. On va vraiment comprendre énormément de choses. Donc, s'il y a vraiment un livre à lire que je vous conseille, c'est le livre de Catherine Guéguen, Pour une enfance heureuse. On peut aussi apprendre à parler à l'enfant. Par exemple, apprendre à exprimer ses émotions, à les reconnaître, à trouver des solutions pour l'aider et pour les apprivoiser. Ça, je pense que c'est vraiment important de parler des émotions. Parler. Donc nous, on a écrit un livre qui s'appelle « Mes petites graines de sagesse », « Mes petites graines de sagesse » qui est paru chez Solar, où on propose plusieurs discussions, donc 18 ateliers pour échanger avec la famille, sur les grandes questions de la vie. Et notamment, il y a plusieurs chapitres sur les émotions. Et justement, parler des émotions, parler de la colère, parler de la tristesse, parler de la joie. Et le fait de parler, de partager, d'échanger ces ressentis mutuels, ça va aussi beaucoup vous aider et aider l'enfant à mieux se comprendre, parce que on parle, on dit que nous aussi on ressent ces émotions, quand est-ce qu'on les ressent, dans quelle situation, comment pourrait-on réagir, qu'est-ce que ça nous fait ressentir, etc., etc. Et rien que de parler, de communiquer, ça aide énormément. Quand on se retrouve dans une situation similaire, on peut se dire, bah tiens, tu te souviens, on en avait parlé, on avait dit que, on avait vu que, et ça va aider beaucoup. Donc bien sûr, la non-violence, ça ne veut pas dire tout permettre aux enfants et ne pas mettre de limites. Hein. Il y a des moments, il y a des limites très, très claires à mettre en place. Par exemple, quand un enfant va frapper son petit frère ou sa petite sœur ou lui arracher les choses, ce n'est pas acceptable. Dans ce cas, moi je prône assez le fait de proposer à l'enfant d'aller se calmer. Donc pas le mettre au coin, bien sûr, hein, que ce soit dans la classe ou que ce soit à la maison. Créer un petit endroit qui soit un endroit où on va se calmer, un lieu de calme où l'on installe, je sais pas, un petit tapis, un petit coussin. On peut mettre aussi des images apaisantes, par exemple la colombe de la paix, par exemple les peace, des tas de choses de paix, un joli paysage qui est aussi calmant. On peut y poser dans un petit panier des objets à manipuler pour calmer la colère, un petit livre sur les émotions. Tout dépend de l'âge de l'enfant. Hein. Il y a des livres sur les émotions qui sont extraordinaires avec des petites figurines. Ça peut être un endroit où on va dessiner. Où vous savez, il y avait aussi les petits plateaux avec du sable où on pouvait très doucement balayer le sable avec un râteau. Donc vraiment un endroit qui soit agréable où on propose vraiment à l'enfant d'y aller, d'aller s'y apaiser et qu'il reviendra quand il se sentira apaisé, puisque je pense que c'est à lui de décider quand est-ce que son émotion est passée. Je pense qu'il est aussi important d'expliquer les choses. Donc c'est vrai que ça prend davantage de temps que de hurler un ordre, fais ci, fais ça, et de si tu le fais pas, je te fais ça. Mais je pense qu'à long terme, c'est beaucoup plus payant. La punition, en fait, ça fonctionne pas trop. Ou alors ça crée un sentiment de peur de l'enfant envers l'adulte, de crainte, de peur, de stress, de méfiance. Et je pense pas que ce soit cette réaction qu'on a envie d'instaurer avec son enfant. Hein, on veut instaurer une relation de confiance, une relation de respect mutuel et d'amour. Et je pense que ces sentiments-là, ils peuvent se développer pas avec la punition ni la menace. C'est impossible. Donc, prendre le temps d'expliquer les choses. Donc, c'est vrai, ça prend du temps. On n'a pas toujours envie, mais c'est important. Donc, aussi, je pense qu'il y a le rôle de l'observation qui est très important. Il faut aussi chercher à déceler les situations déclencheurs des réactions déplacées de l'enfant. Et de cette façon-là, on va pouvoir peut-être les éviter. Par exemple, on entend souvent qu'un enfant, quand c'est le moment d'aller prendre son bain, il se met en colère parce que, évidemment, il est en plein jeu et on lui dit « Allez, maintenant, on va prendre le bain. Allez, maintenant, on va se coucher. Allez, maintenant, on part à l'école. Allez, maintenant, on va dîner. » Mais ça, c'est pas possible. C'est forcé que ça crée une frustration chez l'enfant. Donc, je pense qu'il y a des méthodes. On peut mettre en place, par exemple, une routine avec des pendules. L'enfant, il regarde, il gère. Ou alors, le mieux, c'est de le prévenir, c'est-à-dire un certain temps à l'avance, de lui dire « Tiens, tu finis telle activité, après on va faire ça. » Ou « Tiens, dans 10 minutes, dans 5 minutes, on va aller prendre le bain. » Et si on dit dans 10 minutes, ben 5 minutes avant, ben tiens, dans 5 minutes, on va prendre le bain. Tiens, il ne te reste que 2-3 minutes, tu peux commencer à ranger. Vous voyez, essayez de prévenir les choses que de faire les choses brutalement. et de l'interrompre brutalement. Est-ce que nous, on accepterait la même chose? Peut-être aussi, parfois, être un tout petit peu moins rigide sur les horaires. Si on voit que l'enfant est vraiment lancé dans un super jeu, ben, peut-être que s'il se couche un quart d'heure après, dans le calme et dans sans stress, sans colère, ben, il dormira d'autant mieux. Parfois aussi, s'il y a des conflits, par exemple le matin avant de partir à l'école, parce que l'enfant, on le presse, on lui dit « dépêche-toi, faut partir à l'école, on va être en retard ». Donc peut-être que prendre plus de temps, se réveiller un peu plus tôt, le réveiller un peu plus tôt, préparer ses affaires pour qu'il trouve chaque affaire calmement, qu'on cherche pas le cartable dans un sens, la chaussette dans l'autre, préparer la veille au soir ensemble les choses, comme ça petit à petit il prendra cette habitude de préparer et son début de matinée commencera sans stress. Je pense que c'est important d'avoir ce moment de transition. On peut aussi instaurer une petite histoire, mettre une musique si on veut pas non plus que ce soit nous qui disions « Allez, on se dépêche !» Peut-être qu'on lui dit « Dès que tu entends cette musique, tu sais que c'est que là va être le moment de partir à l'école, le moment d'aller dîner, etc. » Prendre un intermédiaire qui soit pas nous. Il y a aussi souvent des colères qui ont lieu dans les magasins parce que l'enfant est trop sollicité, c'est fait exprès d'ailleurs. Et donc là, on voit des enfants qui crient, qui hurlent, les parents qui les attrapent et qui s'énervent. Et tiens, tu vas voir, je vais t'en mettre une, etc. Donc parfois, on peut peut-être éviter de les emmener. Et puis si on peut pas faire autrement, eh ben essayer de lui confier des missions. Par exemple, tiens, tu vas aller chercher tel produit. Tiens, c'est toi qui choisis ton dessert. Vous pouvez trouver des alternatives. C'est toi qui choisis le fruit aujourd'hui ou c'est toi qui les pèse. Leur changer les idées. Souvent, ça marche très bien. Donc souvent aussi, il y a certains adultes qui pensent que l'enfant fait exprès de provoquer l'adulte. J'entends souvent dire « Ah, c'est l'âge de la provocation. Ah, il essaye de chercher les limites. » Mais c'est pas ça. La majorité du temps, c'est qu'il comprend pas vraiment ce que l'adulte souhaite et qu'aussi on l'a pas forcément exposé de la bonne façon. Et encore une fois, ça crée une situation de colère, d'opposition. Je pense que c'est mieux d'expliquer, de réexpliquer. Donc je pense que quand on pose des limites d'une manière claire, qu'on explique les interdits avec fermeté, il y a un certain nombre de choses qui sont interdites, donc y réfléchir à l'avance parce qu'on peut pas tout interdire, je pense qu'il y a des interdits importants, d'autres qui sont moins importants. Pensez bien que l'enfant traverse des périodes sensibles, hein. La période sensible de l'autonomie, c'est extrêmement important. L'enfant a besoin de faire par lui-même. Donc, par exemple, si l'enfant, moi j'ai vu ma petite fille, elle a 2 ans et demi, elle avait vraiment besoin de monter dans la voiture et de sortir de la voiture toute seule, de son siège. Et elle dit toute seule, et parfois on se dit « Oh là là, on est pressé, on a autre chose à faire, on va l'attraper. » Non, prenez le temps, c'est un besoin, mais intrinsèque, c'est vraiment un besoin important de faire seul. Et l'empêcher de faire seul, c'est vraiment nuire au développement de sa propre personnalité. Et surtout quand on sait comme l'autonomie est quelque chose d'important. Donc vraiment, on pose des interdits, mais des interdits qui sont très importants et qui vont permettre de protéger l'enfant du danger. Hein, par contre, elle sort, elle aime bien aller courir vers la route ou quelque chose comme ça. Là, vraiment, il y a des interdits très importants. Mais dans ce cas-là, prévoir à l'avance, on sait qu'elle va faire ça, on la laisse descendre, on lui prend la main en lui montrant quelque chose ailleurs pour qu'elle n'ait pas cette envie. C'est important. L'enfant a vraiment besoin qu'on pose ce cadre sécurisant. Il a besoin de pouvoir compter sur une figure d'attachement et d'autorité, mais dans le sens de qui autorise. Pas d'autoritarisme, mais dans le sens de qui autorise. Donc, réfléchissons à l'avance ce que l'on peut accepter, ce que l'on peut pas accepter, parce que les familles sont aussi différentes les unes des autres. Bon, évidemment, il y a des règles de base pour la sécurité de l'enfant, mais réfléchissons ensemble, aussi les parents, réfléchissez-en ensemble pour qu'il n'y en ait pas un qui accepte certaines choses, l'autre qui accepte autre chose. La cohérence aussi est très importante pour l'enfant. Et encore une fois, quand on arrive à des blocages, ne pas hésiter à se faire aider, se faire accompagner, à prendre un petit week-end ou une soirée à deux pour on souffle, on arrête d'être dans le conflit. Il y a toujours des gens qui sont prêts à aider. On peut jamais dire qu'il n'y a pas des gens qui sont prêts à vous aider. Donc vraiment, si la vie de famille et la vie de l'école est basée sur ces principes d'écoute, d'accompagnement, de respect de soi-même et de l'autre, d'ouverture à l'autre, qu'on établit des relations bienveillantes, des relations d'amour mutuel, on pourra vraiment faire quelque chose pour créer un monde meilleur, j'en suis sûre, pour que ces adultes de demain soient apaisés, mais soient apaisants aussi et confiance en eux. La vie de famille va aussi être tellement agréable. La vie dans la classe est tellement agréable quand les choses sont calmes, sont posées, que les gens se parlent avec bienveillance, mais c'est extraordinaire. Alors c'est vrai, parfois ça pose pour la classe. Il y a un temps où on a l'impression qu'on perd son temps parce qu'on est en train de poser le cadre. Mais ce cadre posé, en début d'année ou en début de nouvelle période, pendant 2 ou 3 semaines, mais c'est tellement de temps gagné pour après. Là, on va retrouver nos élèves qui auront eu 3 semaines sans venir à l'école, avec un cadre qui va être tout à fait différent. Ben, en tant qu'enseignant, sachant qu'on va avoir besoin de reposer ce cadre de manière bienveillante, sans s'énerver, calmement, en créant un joli environnement pour les enfants, qu'ils aient vraiment envie de travailler d'une façon calme et posée. Laissons-leur le temps, même peut-être d'aller plus, un peu plus dehors qu'à certains moments. Mais ça va vraiment développer chez ces enfants un sentiment d'apaisement, de bien-être qui va rejaillir dans tout, dans tout. Donnons des clés pour que l'enfant arrive à gérer ses émotions, trouvons des solutions ensemble. Et là, on va vraiment pouvoir créer ce monde de paix. Et un jour, on n'aura même plus besoin de célébrer cette journée parce que on n'y pensera même plus à la violence éducative. Ce sera la vie, sera comme ça.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les adultes de demain.